Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien, mais bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Périgord littéraire. Alors, nous allons retrouver cette semaine Pierre-Casimir Hippolyte Lachambeaudie, qui est né à Montignac, il devait être Montignac-le-Comte, je pense, à l'époque, le 16 décembre 1806, où son père, ancien officier d'infanterie, possède une habitation. Alors, veuf, donc, en 1807, il se remarie en 1808 avec Jeanne Seyra, originaire d'Auriac, en Périgord. Quant à Pierre, ses études terminées à Brive, mais commencées au séminaire de Sarlat, où il sera exclu deux fois. Il fera fonction d'instituteur en Périgord pour deux jeunes enfants, puis part travailler à Lyon comme comptable dans une maison de commerce, puis à Rouen dans une société de chemin de fer. Saint-Simonien, il rentre d'un départ pour l'Égypte et se retrouve à Paris sans ressources et sera hospitalisé. Lachambeaudie, ami de Blanqui, sera arrêté, Béranger viendra à son secours et lui évitera une déportation outre-mer, mais sera consigné à Bruxelles. Marié, il aura deux enfants. Détenteur de plusieurs prix, colportera lui-même ses fables qui connaîtront plusieurs éditions. C'était en 1872 et inhumé au Père Lachaise. Alors, je préciserai qu'à Montignac, dans le square Pont-Auberge, un buste de Ferdinand Taluet perpétue sa mémoire. Alors, son premier recueil intitulé « Essais poétiques » est imprimé à Sarlat en 1829 par Antoine d'Auriac. Alors, petite précision, Antoine d'Auriac est né à Limoges en 1790, il sera ouvrier teinturier puis ouvrier imprimeur. En 1823, et à Sarlat, il rachète l'imprimerie Thévenin, puis sera juge au tribunal de commerce. Ses fils reprendront respectivement l'imprimerie et publieront le Sarladais, journal administratif, judiciaire, littéraire, agricole et d'annonce qui paraîtra de 1836 à 1894. Sylvain Cavaillès, auteur de textes en Languedoc, reprendra l'imprimerie de 1895 à 1907. Alors, nous avons la semaine dernière donné lecture de fables dédiées à Béranger, à Scribe ou à sa sœur. Mais il en existe quelques autres. Alors, je ne vais pas bien sûr tout vous lire. Il y a l'Alouette et le Pourceau, dédié à Félix Piat, qui sera journaliste, homme politique. Son nom est associé à la Commune de Paris. Écureuil et le Phare, à M. de Pogerville, académicien, traducteur d'auteurs latins, puis à M. Édouard Neveu, auteur de chansons enfantines et traducteur, et puis Théodore Carlier, écrivain, professeur de littérature et correspondant de Sainte-Beuve. Alors Lachambeaudie participera de nombreuses réunions, comme celle littéraire du Caveau. Donc le Caveau, c'était une association, donc j'ai dit littéraire, qui a été créée en 1737. Et là, il est qualifié de visiteur. Il récitera entre autres Les Papillons, fable reproduite dans le 30e volume de cette société, j'allais dire académique. Voilà, voici Les Papillons. De votre aile rapide, égayant les bocages, laissez-nous admirer vos fuyantes couleurs. Sylphes capricieux, ô papillons volages, allez puiser l'ivresse au calice des fleurs. Coulez dans les plaisirs vos heures éphémères, esprits aériens, passés insoucieux. De nos rêves d'azur à nos vaines chimères, vous nous offrez l'image être mystérieux. Dans l'herbe aux papillons, lorsque tu te reposes, on dirait une fleur sur sa tige riant. Si tu voles parmi les jasmins et les roses, on croit voir un oiseau venu de l'Orient. De la terre aujourd'hui, tu n'es plus cet esclave qui rampait, pauvre insecte, objet de nos mépris. Hier, la chrysalide a brisé son entrave et sa splendeur éclate à nos regards surpris. De rosée et de miel, aujourd'hui tu t'abreuves, ta nuit s'est dissipée, tu vois le soleil. Puisse le travailleur, après son temps d'épreuve, puisse tout malheureux avoir un sort pareil. De votre aile rapide égayant les bocages, laissez-nous admirer vos fluyantes couleurs, sylphes capricieux, ô papillons volages, allez puiser l'ivresse au calice des fleurs. Voilà, donc, et c'est signé bien sûr Pierre Lachambeaudie, visiteur du Caveau. Alors on le retrouve également dans des manuels scolaires. C'est un peu curieux, mais enfin on le retrouve dans des manuels scolaires, comme par exemple dans Lison. Alors Lison a été édité par Fernand Nathan en 1936, il est destiné par Brodeillard-Écune au cours moyen et cours supérieur en préparation au certificat d'études. sa fable L'Enseigne est agrément, et comment je pourrais dire, est agrémenté, ainsi que beaucoup d'autres, d'un dessin original de Firmin Bouisset. Alors voici L'Enseigne. Devant un cabaret, ces mots étaient écrits. Demain, vous paierez le pain. Aujourd'hui, pardon, vous paierez le pain, le vin, la viande. Demain, vous mangerez gratis. Jeannot, que l'enseigne friande, dit « Aujourd'hui, je n'entre pas, il faudrait payer la dépense. Mais demain, je veux faire un si fameux repas que le cabaretier s'en souviendra, je pense. Lendemain, on va entrer Jeannot, il va se mettre à table et s'écrit aussitôt « Servez vite, maître Grégoire, servez jusqu'à la nuit, je veux manger et boire, apportez du meilleur, je suis de vos amis. » À peine le couvert est mis, qu'il faut voir notre Jeannot, des dents faire merveille et vider bel et bien les plats et les bouteilles. Étant laissé la panse, il se lève gaiement et sans cérémonie regagne la porte. Mais Grégoire l'appelle et lui dit brusquement, mon brave, il faut payer avant que l'on ne sorte. Vous riez, dit Jeannot, vraiment, et la plaisanterie est forte. Vous deviez aujourd'hui, si je me souviens bien, nous servir à dîner pour rien. Oh, répond l'hôtelier, votre erreur est extrême, car je dis aujourd'hui ce que hier je disais. Regardez, tous les jours, mon enseigne est la même. Vous ne m'y reprendrez plus, dit l'autre, désormais, et si vous ne m'eussiez pas leurré par un vain compte, si j'avais su qu'à votre compte, demain signifiait jamais. Voilà, et donc c'est un livre de lecture, lisons, qui date de 1936. Voilà, alors donc on le retrouve également, comment je pourrais dire, dans d'autres ouvrages, et la Chabaudie restera attachée à son terroir. Il fera quelques séjours à Montignac et écrira ce sujet, Les Fleurs d'Arzem. Alors, voici ces Fleurs d'Arzem. Je crois que l'Arzem était une des collines qui entourent Montignac. Alors voilà, alors c'est dédié à Mademoiselle L. Alors, je ne sais pas qui est Mademoiselle L. Fleurs d'Arzem, plus blanche que la neige ou le lys triomphant, je vous aime comme le doux reflet de mes rêves d'enfant. Autant de fleurettes, vos calices éblouissants sont des cassolettes que Dieu remplit d'un pur encens. À l'aurore merveille, on peut voir la rosée suspendre à votre lèvre une perle irisée. Sous le chêne touffu, sous le buis protecteur, jamais la tempête irritée n'a de corolle altérée la blancheur. Comme les feux du jour, la montagne abritée, de ruisseaux murmurants vous verse la blancheur. J'ai vu dans les forêts lointaines, étrangères, des muguets délicats qui se disaient vos frères, sous la bise amoureuse, éclos, épanouis. Ah, vous pouvez m'en croire, aux tendres fleurs que j'aime, les muguets des autres pays ne veulent pas les fleurs d'Arzem. Femme, tout jeune encore, je vous admirais, et d'un culte fervent, je vous adorais. Ah, dans l'église, les dimanches, objet chéri, colombe blanche, ange de pureté, je croyais voir vos ailes, sous des voiles d'azur, cacher leur majesté. Ô mes sœurs, que vous étiez belles. Que ce soit au village ou dans une cité, tout peuple s'honore d'avoir fait éclore la fleur de beauté. Ô vous, Jeanne, ô vous, Louise, adorable merveille, j'admire en vous voyant que nul autre pays n'en offrit de pareil à mes yeux éblouis. Voilà. Donc c'était Les Fleurs d'Arzem. Et puis, il y a un autre poème, qui est une chanson en réalité, qui s'intitule « À qui il est doux de revoir son pays ». Alors, bon, une chanson, je n'ai pas la partition. Je n'ai pas la partition, de toute façon, je pense que j'éviterai de la chanter. Voilà. Alors donc, voici ce texte, « À qui il est doux de revoir son pays ». Pour quelque temps, un frère vous arrive. Adieu Paris, turbulente santé, cité, je viens encore saluer cette rive dont les échos raniment ma gaieté. J'accompagnons de ma rapide enfance, auprès de vous je me réjouis, mes bons amis, après 10 ans d'absence, à qui il est doux de revoir son pays. Le troubadour ainsi que l'hirondelle, vers son doux nid, revoit avec ardeur dans les flots purs d'une source fidèle, sa poésie a repris sa verdeur, au bon berceau de la riche vallée. Mon cœur est plein, mes yeux sont éblouis, et puis je puis encore reprendre ma volée, à qui il est doux de revoir son pays. On me disait, pour ton âme amoureuse, des trop, hélas, 1000 déceptions. Elle n'est plus la jeunesse rieuse, ah, qui fut l'objet de ses illusions. Voilà, alors il y en a évidemment, il y en a d'autres, c'est les deux rivages. Alors, les deux rivages, le temps que je retrouve ma page. Et voici donc les deux rivages. Je veux toujours fidèle au rôle de conteur, rimer en quelques vers l'histoire dont le doux souvenir occupe ma mémoire. Lors d'une rivière au murmure enchanteur, coula mon enfance inquiète, confondue sur les bords, sol et peupliers, offrait aux rossignols, aux amants, aux poètes, leurs ombrages hospitaliers. Mille fleurs embaumées, les deux rives égales et des chantres ailés, des laveuses rivales, envoyaient aux échos leurs naïves chansons. Mais voilà, tout à coup, j'avais 16 ans à peine, car il par centaines, charpentiers et maçons, et braves compagnons, se mettant à l'ouvrage d'arbres en un instant, dépouillent un rivage, les brouettes, les pieux, les haches et les marteaux, bâtissent un canal pour maîtriser les eaux. Au sommet du talus dispose un passage pour les bœufs remorqueurs qui traînent les bateaux. Avide de trésors, moins que de renommée, j'ai quitté depuis lors et mon pays natal et sa rivière bien-aimée. Puis ce positif de nos rêves fatals n'avoir pas enlevé d'une main trop puissante la dernière harmonie et la dernière plainte du domaine de l'idéal. Le cours de notre vie a toujours deux rivages, tous deux dans notre enfance, et fleuris et joyeux sont pleins de doux pensées, de chants insoucieux. Plus tard, sur une rive, étendant leur rivage, intérêt des besoins et les prévisions emportent la moitié de nos illusions. Heureux quand la vieillesse arrive, si quelques fleurs encore restent sur l'autre rive. Voilà. Alors, je dirais qu'il y a peu de biographies concernant la Chambaudie, mais on peut citer Pierre la Chambaudio de Marcel Segonda avec des textes occitans. Cet ouvrage est apparu en 1949 avec l'aide des Périgordins de Bordeaux. Voilà, alors donc sur ce petit livre, Pierre la Chambaudie compte donc traduction française, on va trouver quelques fables assez courtes. Alors, il y a le soulier et la savate. Alors, ça fait partie des plus connus. Près d'un soulier luisant se trouve une savate, sèche, rissonnée et plate. Comme un vieux crapaud, sabatier, vous n'en donneriez pas un denier. Va-t'en, saloperie, lui dit le soulier, va pourrir sur du fumier comme une vieille crotte. Tu sors d'un savetier, moi d'un cordonnier. Après, lui répond la pauvrette, que ton sort quelques jours au mien sera pareil, d'un solide bonheur. Trop bête qui se flatte, mon frère, toute savate a été soulier, et tout soulier deviendra savate. Voilà. Alors, il y a aussi la vessie, le potayrol, en Languedoc. Ce n'est pas une faribole, j'ai lu qu'une vessie tellement s'enfla et s'enfla, que d'elle-même elle s'appela la reine des vessies. Ah, de quelle manière, mais d'un seul coup d'épingle, lui fit perdre le vent, de temps la rendait fière. Et le pauvre boyau, aplanti et crevé, devint une blague à plier du tabac. J'en connais plus d'un pour lui qui ça me désole que nous verrons désenfler comme une vessie. Alors je ne sais pas à qui il pensait exactement. Voilà. Alors il y a également la châtaigne avortée et la noix vide. Une noix vide vit un châtaignier, une châtaigne avortée qui n'avait que la peau. Et elle qui était si ronde de la voir si plate se tordait de rire, et moi, avec un couteau, je voulais l'ouvrir. C'était une noix vide. Qui me demande ce proverbe? Eh bien, il est bien vieux. Alors, il y en a aussi quelques autres. La planche et le rabot, toute blanche, une planche peuplier, sous le sabot qui l'écorche, crie et se plaint comme une folle. Vous pourriez l'entendre de Messoul. La planche, plus elle pleure l'outil, plus il la raffine. Et il en fait un morceau plus joli, plus luisant, qui vaut 3 francs en de bon argent. Il n'y a pas d'âme au fait que la gloire arrivée, qui de 1000 douleurs ne soit pas torturée. Voilà. Alors pour terminer rapidement, je dirais donc qu'il y a peu de biographies qui le concerne. Et puis il y a, comment je pourrais dire, Pierre la Chambaudie, si j'y arrive, Chambaudie, fabuliste montignacois, livre de Jean-Michel Faure, édité en 2006 à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, ouvrage orné de desserts originaux de Valérie Alibert. La Chambaudie a également écrit à Languedoc un recueil de fables patoises qui paraîtra à Périgueux en 1857. Alors pour terminer, je dirais que si une place de Paris porte son nom, également une rue Pierre-Lachambeaudie à Roanne, à Brunon, à Sarlat et une bien entendu à Montignac. Alors sur ces bonnes paroles, eh bien écoutez, je vous dis, bien ma foi, à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.